Cette sixième partie, je l'avais intitulée « L'amour de Dieu, sa puissance infinie ». Et ce matin, donc, nous allons parler de l'amour de Dieu. Parce que s'identifier au Seigneur Jésus, se maintenir dans une relation avec lui, vivante, ce qui est obéir à l'injonction « demeurez en moi », eh bien, mettre tout cela en pratique, puisque, en définitive, l'Évangile n'a pas pour intention de nous éduquer en matière de connaissances théologiques, mais l'Évangile veut avant tout que nous mettions l'enseignement qu'il nous apporte en pratique. Heureux serez-vous si vous mettez ces choses en pratique. Et mettre en pratique ce lien, cette relation avec le Seigneur Jésus à laquelle nous sommes conviés, pour mettre cela en pratique, il n'y a pas d'autre moyen que l'amour. Mais c'est le grand moyen. C'est, comme dira Paul dans 1 Corinthiens 13, la voie par excellence. Le moyen par excellence. Nous allons lire dans la première épître de Jean, au chapitre 4, 1 Jean, chapitre 4, versets 7 et 8 d'abord. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et nous a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés, ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Voyons maintenant le verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ainsi, nous apprenons par cette proclamation, c'est une véritable proclamation, que Dieu est amour et que l'amour est de Dieu. Et c'est Dieu qui a pris l'initiative de l'amour, il ne pouvait pas, certes, en être autrement. Et cet amour que Dieu nous accorde, il le verse également, comme le dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, il le verse dans nos cœurs, afin que nous puissions nous aussi aimer Dieu de ce même amour. Le Seigneur Jésus a montré que aimer Dieu de toute sa force, de toute sa pensée, c'était accomplir la loi, c'est aimer Dieu, c'est le premier, le plus grand des commandements, et le second qui lui est semblable, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Il y a donc, du fait de l'amour, un lien qui s'établit entre Dieu et ceux qu'il a appelés, ceux qu'il justifie par l'œuvre de Jésus-Christ. Et aussitôt, l'Écriture nous montre que si nous aimons Dieu, nous devons aussi dans le corps de Christ, dans l'Église, nous aimer les uns les autres. Sur cela, Jésus a apporté un appui particulièrement fort, un accent tout particulier dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, ou plutôt Jean chapitre 13, Jean chapitre 13, verset 34. je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il ne s'agit pas d'une petite affection quelconque, il s'agit du lien que seul l'amour venant de Dieu et versé dans nos cœurs peut établir entre les différents membres de l'Église, du corps de Christ. Le lien de l'amour ainsi mis en évidence, l'amour entre les membres du corps de Christ, ce lien, en somme, de l'amour que l'on appelle l'amour fraternel, a des conséquences et qui sont certainement au-delà de ce que nous pouvons penser. Il y a des conséquences qui sont celles, notamment, de la solidarité organique et spirituelle entre les membres de l'Église. Je vous rappelle cette parole, nous sommes membres les uns des autres, membres les uns des autres. Et comme l'Écriture ne force jamais ce qu'elle dit, ne force jamais les déclarations qu'elle fait au-delà de la vérité, il y a donc là une grande vérité, nous sommes membres les uns des autres. Et Dieu désire que non seulement nous le sachions, mais que nous nous offrions à l'Esprit de Dieu, car c'est l'Esprit de Dieu qui pourra établir entre nous cet amour. C'est bien l'Esprit de Dieu qui verse dans nos cœurs l'amour divin. Et c'est à cela, nous dit le Seigneur Jésus, c'est à cela que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, c'est-à-dire que l'on reconnaîtra l'Église. Faisons une observation dans la parole du Seigneur que je viens de lire. Nous trouvons, et cela dans plusieurs passages de l'évangile de Jean, nous trouvons ce petit mot « comme je vous ai aimé ». Et ce petit mot indique un amour de même nature, de même force que celui du Seigneur pour ses disciples, pour nous. Comme, en somme, indique une conformité absolument totale. Et le verset 35, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce verset indique qu'il n'y a pas donc d'église que le monde puisse reconnaître comme tel sans cet amour. Aucun autre caractère que celui de l'amour fraternel entre les membres de l'Église ne peut manifester au monde l'œuvre divine qui fait l'Église, qui constitue l'Église. Alors, il y a là un sujet de réflexion particulièrement intéressant. Comment le monde qui, lui, est dans l'incrédulité et souvent dans l'hostilité, comment le monde va-t-il pouvoir reconnaître l'Église de Jésus-Christ? Bien sûr, on lui dit toujours, on lui srine constamment que l'Église, c'est cette institution couverte, accréditée par le temps, par les traditions, par son importance, son implantation sur la terre. Mais le monde reste indifférent. L'Église, c'est ça, bon, c'est une institution. Mais pour les personnes qui, dans le monde, seront amenés, et il y en a toujours, à rechercher l'Église de Jésus-Christ, comment pourront-ils la reconnaître? Il y a un certain groupement, je ne veux pas employer trop souvent le mot secte, un certain groupement qui n'est pas, en somme, représenté, heureusement, par ici, et qui se prétend être l'unique, la seule Église authentique de Jésus-Christ. Mais cela n'a pas de portée, sauf pour un petit groupe d'adeptes. Cela ne porte pas, cela n'a pas d'impact. On affirme, ici ou là, que la véritable Église est présente, il faut la voir dans une institution ou dans telle organisation chrétienne. Mais le cœur qui cherche vraiment l'Église de Jésus-Christ doit pouvoir la trouver à tout moment, tant que la porte de la grâce reste ouverte. Il est absolument nécessaire, indispensable, que l'on puisse découvrir la véritable Église. Et on la découvrira là où est l'amour, chers amis. Alors, mesurons notre responsabilité à cet égard. Nous avons une grave responsabilité. Cela, je l'ai vu pratiquement. J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui, en effet, cherchaient l'Église, se disaient, mais certes, je suis attiré vers le Christ, mais je voudrais bien trouver la véritable Église. Où est-elle, cette véritable Église? Et puis, timidement, prudemment, ils ont fait diverses expériences, et un jour, ils ont rencontré non pas une salle tout entière, non pas une église locale, ils ont rencontré simplement quelques personnes chrétiennes, un groupe de personnes chrétiennes, un groupe peu nombreux. Et alors là, ils ont reconnu l'amour. Je me souviens de cette réflexion qu'avait fait justement une femme qui vraiment cherchait. Oh, elle cherchait. Elle cherchait avec avidité, je dirais, l'Église de Jésus-Christ. Elle voulait la trouver, la découvrir. Et elle, en se trouvant au milieu de quelques chrétiens qui vraiment, cela était magnifiquement unis par l'amour. Ils appartenaient, certes, à une église locale, mais ils étaient ensemble dans un lieu de rencontre, dans une maison, mettons. Et c'est là que cette dame, qui était à la recherche de l'Église, les a rencontrés. Et alors, voyant comment ils s'aimaient, elle a mis le temps, un certain temps, pour les observer, pour voir, pour se laisser elle-même même renseigner sur ce que pouvait être le lien entre ces chrétiens. Et quand elle a senti que ce lien était le puissant lien de l'amour divin, elle a eu un véritable cri, c'est ici l'Église de Jésus-Christ. Ça, je suis sûr, là, c'est l'Église de Jésus-Christ. Chers amis, c'est une chose qu'on laisse trop souvent de côté. Il ne devrait pas y avoir la moindre petite contrariété, le moindre petit différend, le moindre agacement. Vous savez que Moïse s'est énervé devant le peuple d'Israël dans une certaine circonstance. Et Dieu n'a pas apprécié, lui a même dit qu'il avait péché. Il avait péché. Alors, pas le moindre énervement, mais, comme le dit l'Écriture, se supporter les uns les autres, même se soumettre les uns aux autres, considérer l'autre comme supérieur à soi. Si vraiment tout cela était mis en pratique, tout cela mis réellement en pratique. Et c'est le Christ qui nous dit de mettre tout l'enseignement évangélique en pratique, de le vivre. L'évangile nous est donné pour le vivre. Eh bien, alors, là, chers amis, nous aurions vraiment le visage, nous aurions le vrai visage de l'Église de Jésus-Christ. Et alors, on n'y trouverait pas de ces défigurations. Vous savez, l'Église de Jésus-Christ se trouve en effet souvent défigurée par des dissensions, par quelques inimitiés, peut-être par même simplement des attitudes d'indifférence, simplement parce que les cœurs ne sont pas remplis de cet amour fraternel. Alors, l'Église est défigurée, elle est défigurée, absolument, défigurée. Ou si elle n'est pas pleinement défigurée, elle n'a pas son visage aux yeux du monde. Elle n'est pas cette Église reconnaissable par n'importe qui. C'est bien ce que nous dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et nous allons revenir à la première épître de Jean, et cette fois-ci au chapitre 3. Chapitre 3, je lirai du verset 11 au verset 18. « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternel demeurant en lui. Et nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. J'arrête ma lecture ici. Ainsi, l'amour mutuel est inscrit dans la révélation de Dieu. Il est inscrit en bonne place, en bonne évidence. Il ne s'agit pas de voir l'Église comme une société amicale, même s'il y a certains aspects de cela. Mais il y a pour elle un message de Dieu et une réalité fondamentale dans cet amour mutuel qui est à vivre. Et cette réalité étant vécue, la vérité apparaît. La vérité n'est pas seulement l'énonciation de ce qui nous est enseigné, l'énonciation de la doctrine. La vérité, c'est la vie de Christ vécue. La lumière de Christ, marcher dans la lumière de Christ, c'est vivre sa vie. Et c'est ça la vérité, c'est ça la position de vérité. Quelqu'un pourrait dire, la vérité, oui je l'ai parce que j'ai adhéré à toute l'écriture, je reconnais comme vrai toute la doctrine, toute l'écriture, alors j'ai la vérité. Mais s'il ne met rien en pratique, il n'a pas la vérité. il n'a pas la vérité. La vérité nécessite donc la mise en pratique de tous les principes évangéliques, de tout ce qui est enseigné. Étant aimés de Dieu, nous avons donc à nous aimer. Étant aimés, nous aimons. L'amour divin passe à travers nous et se prolonge au-delà de nous et par nous. Et c'est ce qui fait le lien de l'Esprit, il est appelé ainsi, qui unit tous les membres de l'Église les uns aux autres et qui fait dire à Paul, nous sommes membres les uns des autres. Dans toujours ce chapitre 3, dont nous venons de prendre un passage de la première épître de Jean, j'aimerais vous lire le verset 23, c'est un peu au-delà de ce que je viens de lire. Le verset 23. « Et c'est ici mon commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. » Ici, on peut remarquer quelque chose de très important, c'est que le commandement nouveau que Christ nous donne, et ce commandement, il est au singulier, il comporte deux choses, que nous croyons, il comporte donc la foi au nom de son Fils Jésus, la foi dirigée sur la personne de Jésus. Le commandement comporte donc la foi en Jésus-Christ, et puis l'amour, et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Il y a en somme un commandement qui contient ces deux invitations de croire en la personne de Jésus et de nous aimer les uns les autres. Ces deux choses, ces deux invitations sont donc groupées en un seul commandement. Croire et aimer, tel est donc le commandement majeur, le commandement nouveau, le commandement qui assortit le temps de la grâce, l'alliance nouvelle. Commandement nouveau parce qu'il est celui de l'alliance nouvelle. Et ce commandement est un véritable verdict de Dieu qu'il faut, au-dessus de toute chose, observer. Et pourquoi ? Pourquoi ce commandement, pourquoi l'importance qui lui est accordée ? Eh bien, c'est que vivre, le salut c'est de vivre. Nous avons été appelés par Dieu, justifiés par Dieu pour être régénérés et jouir déjà maintenant de la vie véritable qui est éternelle. Jouir de la vie. En somme, le salut, c'est de recevoir la vie véritable. Puisqu'avant, l'Écriture dit, vous étiez morts par vos offenses. Bon, donc c'est sortir de la mort, sortir, comme nous l'avons lu tout à l'heure, nous sommes passés de la mort à la vie. Donc voilà le salut. Passer de la mort à la vie, une vie impérissable, une vie qui va nous entraîner dans tout le développement du plan divin, la rédemption de notre corps, l'héritage qui nous attend dans le ciel, le royaume de Dieu. Mais le salut de Dieu, en somme, consiste à donner la vie à ceux qui ne l'ont pas du tout. Eh bien, vivre, c'est aimer. Vivre, c'est aimer. Il est impossible de parler de vie ou de dire « je vis » si l'on n'aime pas. Dire « j'ai la vie nouvelle, j'ai reçu du Seigneur la vie nouvelle en moi, si je n'aime pas, alors je conclurai comme le fait à deux reprises Jean dans cette première épître, je serai un menteur. Je dirai quelque chose qui ne sera pas vrai. » Vivre, c'est aimer. On ne peut pas vivre la vie nouvelle sans aimer de l'amour divin, chers amis. Que cela s'implante bien dans nos cœurs, on ne peut pas, absolument pas vivre sans aimer. Ce serait vivre sans aimer, penser qu'on peut vivre sans aimer, ce serait alors penser aussi que notre corps peut vivre sans, en dehors d'une atmosphère, sans respirer. C'est exactement pareil. L'amour et la vie sont intimement unis, liés, absolument liés ensemble. Le commandement d'amour est donc la traduction des grands principes qui règlent l'existence de Dieu elle-même. L'existence de Dieu, oui, parce que le Seigneur Jésus nous a montré que entre le Père et le Fils, qu'y a-t-il, quel est ce lien? C'est le grand lien d'amour. Le Père aime le Fils. Jésus s'est plu à nous redire cela. Le Père aime le Fils aime le Père. Cet amour parfait, ce lien, je dirais même que c'est cette relation d'amour du Père et du Fils est fondamental, et c'est de cette relation-là que provient l'œuvre qui s'accomplit au niveau de l'Église, dans l'Église, au milieu des hommes, des pécheurs repentis et pardonnés que nous sommes. Voyez-vous, il y a cette relation qui est fondamentale. La relation d'amour du Père et du Fils, nous pouvons l'appeler, si vous voulez, la relation première, et dans l'œuvre de rédemption, elle engendre une relation seconde, une relation dérivée, si vous voulez, dérivant d'elle. Elle engendre donc une relation seconde qui est celle du lien entre les membres de l'Église et entre, naturellement, les membres de l'Église et le Christ. Relation d'amour entre le racheté de Christ et son Seigneur et entre les membres eux-mêmes de l'Église. Et cela provient de cette haute, de cette sublime relation du Père, d'amour du Père et du Fils. Voilà comment nous enseigne la révélation de Dieu. Ainsi, l'amour fraternel est la manifestation nécessaire d'une vie en relation avec Christ, en relation avec Dieu. L'amour fraternel, s'il n'existe pas, il annule la manifestation de notre relation avec le Christ. Il est impossible, c'est ce que nous disons, il est impossible de dire qu'on connaît Dieu, que l'on est dans la communion, si l'on ne s'aime pas, entre nous-mêmes, entre nous. Donc, l'amour fraternel est bien la manifestation indispensable d'une vie en relation avec Dieu. Et cet amour fraternel, comme nous l'avons vu, dans le chapitre 13 de Jean particulièrement, ou dans la première épître, ici, au chapitre 3, cet amour fraternel est le signe de la vie. Il est le signe de la vie. Voilà pourquoi il est le signe de l'Église. C'est pour cela qu'il est le signe de l'Église. Et pourquoi le Seigneur nous dit « Aimez-vous les uns les autres, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples », c'est-à-dire qu'il y a là, sur la terre, des personnes humaines qui sont mes disciples, qui sont unies à moi, c'est-à-dire qu'il y a l'Église, corps de Christ. Alors, le signe de l'amour fraternel est donc le signe de la vie et par voie de conséquence, il est le signe de l'Église. Il est le signe de l'identification avec Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. c'est-à-dire avec, selon une conformité absolument totale et parfaite, avec cet amour que j'ai pour vous, que votre amour des uns envers les autres est cette conformité avec l'amour que moi, je vous ai apporté à vous tous. L'amour fraternel est donc la marque de notre existence nouvelle. Et, à contrario, c'est ce que Jean nous fait toucher dans ce que nous avons lu du chapitre 3 de sa première épître. Voyons au verset 14. « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » Les amis, il faut le lire ça aussi. Il faut l'affirmer, il faut s'y arrêter à ça aussi. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Par conséquent, il n'y a que celui qui aime qui est dans la vie. Celui qui n'aime pas est dans la mort. C'est un verset terrible. Pour celui qui n'aime pas, alors quel est vraiment, qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Qu'est-il intérieurement? Eh bien, c'est quelqu'un qui est occupé de lui. S'il n'aime pas les autres, c'est qu'il est très occupé de lui. Les autres ne comptent pas. Il les veut uniquement s'ils sont utiles à ses plans. Et c'est une attitude grave. Au verset 15, toujours du chapitre 3 de la première de Jean, « Celui qui n'aime pas demeure dans la mort, quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Alors ici, le mot « haïr » peut peut-être nous faire penser qu'il s'agit là d'une attitude extrême, il s'agit là vraiment d'un sentiment qui doit être excessivement rare. Mais ce n'est pas du tout ce que le texte original nous donne. Celui qui est son, quiconque est son frère est un meurtrier, et nous pouvons traduire plus valablement comme ceci, celui qui n'aime pas son frère, celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier, vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Voyons maintenant le verset 16. « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Nous avons connu l'amour, oui, c'est bien ce que nous avons lu tout à l'heure dans le chapitre 4. Chapitre 4, en effet, nous a dit « Et cet amour, l'amour de Dieu, consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Alors, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie, dans cette œuvre qui a amené le Christ à se substituer à l'homme pécheur, d'abord à s'identifier à lui, à prendre sa charge, à prendre son fardeau, tout son péché, toute sa culpabilité devant la justice de Dieu, et s'en charger, passant ainsi dans la mort pour expier ce péché. Bon, alors c'est là que nous avons connu l'amour, c'est en cela que nous reconnaissons le grand amour de Dieu. Alors, corollaire, nous dit Jean, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alors, cela peut-être le mettons-nous en pratique dans le service, lorsque nous sommes engagés à l'Église dans un certain service, alors nous nous dévouons, et il est assez fréquent, heureusement, que bien des chrétiens vraiment abandonnent des avantages qu'ils pourraient avoir personnellement pour leur bien-être ou leur satisfaction personnelle, afin de se dévouer pour les autres. Il est évident que l'amour sans le dévouement ne peut pas être l'amour. Le dévouement, d'autre part, lui-même, conduit au sacrifice de quelque chose. Et le dévouement sans le sacrifice n'est pas le dévouement. Il ne reste qu'à l'état de principe. Et le sacrifice, qu'est-ce que c'est que le sacrifice? Qu'est-ce qu'il exige, lui, le sacrifice? Pensons à Jésus-Christ, puisque le parallèle est fait dans ce texte de Jean. Eh bien, c'est la substitution. Christ s'est substitué aux pécheurs. Alors, le sacrifice, c'est donc de se substituer et de porter, nous aussi, dans la mesure, bien entendu, où nous le pouvons, de porter les fardeaux les uns des autres. Porter les fardeaux. Il faut que l'amour devienne effectif. Par conséquent, cet amour fraternel qui nous est si chaudement, si vivement recommandé, n'est pas un amour de sentiment. Ce que, ici, Jean veut mettre en relief, ce n'est pas seulement des sentiments, ce ne sont pas des paroles seulement, c'est quelque chose d'effectif. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Aimer, c'est donc souffrir, autant qu'il sera nécessaire de souffrir. C'est de pleurer, comme dit Paul, avec ceux qui pleurent. C'est d'aider, c'est d'user de cette qualification de qualification qui est apportée par le Saint-Esprit de pouvoir secourir les autres. Secourir, il y a un don. Le don de secourir, il existe, mais la chose doit être répandue au milieu de l'Église de Jésus-Christ. Donc ce sera souffrir avec la personne aimée, ce sera tendre à la décharger de ses propres souffrances, la décharger de son indignité, à la sauver de son péril. Nous avons alors là, vous voyez, tout un champ ouvert. Dans l'Église déjà, dans l'Église et dans ceux qui vont pénétrer dans l'Église. Donner notre vie pour les frères. Il est évident que nous ne pouvons pas le faire de façon équivalente absolument à l'œuvre, au don de Jésus qui a donné son corps pour notre sanctification. Mais quel sens va avoir cette recommandation qui nous est faite ici par l'Écriture de donner notre vie pour les frères? Eh bien, ce sera se laisser pénétrer et guider par l'Esprit qui a animé Jésus-Christ, l'Esprit et l'amour qui a animé le Seigneur Jésus-Christ, même en de modestes dévouements. Ce sera user de sa propre vie, prendre de sa propre vie, c'est-à-dire de son activité, de son temps, de sa force, de toute sa ferveur intérieure, prendre de sa propre vie pour les frères, de son temps, de son argent, de son cœur, de ses larmes pour les frères. Ce sera cela. Et il y a deux applications que nous pouvons trouver dans l'Écriture. Il est intéressant de les signaler. D'abord dans Romains 12, le verset 15, Romains chapitre 12, et au verset 15, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. » Ne soyez point sages à vos propres yeux. Pleurez avec ceux qui pleurent. Et une autre application, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, et au verset 25. Verset 25. Faut commencer au milieu du verset 24. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église... Bon, je m'arrête là. afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. En somme, c'est pas de soi-même qu'il faut avoir grand soin. Ce n'est pas de soi-même. Parce que c'est bien une chose que le Seigneur m'a montré il y a déjà assez longtemps. Le Seigneur m'a montré que, en ce qui me concerne personnellement, c'était lui qui prenait soin. Il faut que l'Église soit vraiment le lieu de l'amour. Il faut qu'il n'y ait plus d'accrocs, plus de, qu'on ne se déchire plus, comme dit l'Écriture, bien entendu, que nous soyons unis avec la puissance de l'amour divin. Il faut que nous ayons à cœur de sauvegarder, comme l'Épître aux Éphésiens nous enjoint de le faire, sauvegarder l'unité pour sauvegarder l'efficacité. C'est en sauvegardant l'unité que nous sauvegarderons l'efficacité et la réalité de l'Église. Voilà, chers amis, tout cela est sujet de réflexion, je le livre à vos réflexions, mais l'Écriture est là, vous l'avez, vous reverrez toutes ces choses, n'hésitez pas à aller au fond de ces choses et à les mettre en pratique, c'est ainsi que vous pourrez être agréable au Seigneur. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour, qui est au-delà de tout ce que nous pouvons penser et imaginer. Cet amour est immense, et comme la révélation nous le montre, il n'a ni hauteur, ni profondeur discernable, ni largeur, ni longueur. Il est immense, il est immense. Et nous avons compris, Seigneur, que tu as fait toutes tes œuvres en raison de ton amour. Tel a été le mobile de tes œuvres, Seigneur notre Dieu. Et nous voudrions que maintenant l'amour soit notre mobile à nous aussi. Ce même amour dont tu nous donnes la possession par ton esprit. Ô Seigneur, je te prie instamment que l'Église, maintenant, dans ces temps de la fin, réalise le grand besoin où elle est de connaître l'amour de Dieu et de le répandre autour d'elle, cela pour que le Seigneur Jésus soit glorifié. Amen.